Bonjour et bienvenue à ce lundi froid, escale 17-18 avec Fulgence Blanc au micro, Nicolas Vatman. Oui, je l'appelle avec son prénom et son nom de famille aujourd'hui. Je ne l'ai jamais prononcé. Je lui ai dit, je ne veux pas l'écorcher du tout. Ça, c'est ça.
Tu l'as bien eu, tu l'as bien eu.
Ah voilà, je l'ai bien eu. Salut Nicolas, comment vas-tu?
Ça va super bien, toi?
Là, tu es au chaud là, depuis un bon moment. Moi, je... tu as vu comment je suis arrivé, si tu vois mon visage là. Alors, c'est lundi aujourd'hui. Donc, en première partie d'émission, nous avons notre chroniqueuse de nutrition, Louise Thibault, qui va nous parler aujourd'hui de quoi? Ce que nous lèguent nos parents côté génétique et alimentaire, des recettes et de femmes parfaites. Voilà, génial, ça va bien. Et puis en deuxième partie d'émission, je vous ai concocté quelques sujets. Voilà, et voilà. Donc on sera pas, on va vous laisser seul comme ça, seulement avec la musique, il y aura de quoi aborder. On va tout de suite en musique avec Laëti, La route est longue.
Je suis pas née dans la soie, maman, j'espère y arriver. À te sortir de là, t'es la seule à tout mériter. Mais pour l'instant, je me tape à faire des sous sur le renté. Ils veulent nous voir en cage, mais ils pourront pas m'arrêter. Je me souviens de ces soirs d'été où maman me serrait fort en me disant de jamais m'arrêter. Bresson et le décor dans cette chambre où je suis enfermée. Mon enfance est décente, c'est le cas où je suis enragée. J'irai dormir dehors, en vrai je suis dans la merde. À l'heure où tout s'endorme, bien au chaud, moi je suis dans la merde. Plus bas je pourrais pas tomber, je n'ai plus d'air. Je suis pas comme eux, je vais me relever, je vais me refaire. Rendez-moi mon innocence et mes rêves. Ramenez-moi ma mif avant que j'en crève. J'ai froid, je veux plus tout ça. Dites à la juge que la petite Letty rentrera pas. Je suis pas née dans la soie, maman, j'espère y arriver. À te sortir de là, t'es la seule à tout mériter. Mais pour l'instant, je me tape pour faire des sous sur le rentrer. Regarde dans le rétro tout ce que la vie m'a enlevé. J'en veux au monde entier, je me suis noyé, j'ai perdu pied. Aspiré par la rue, j'ai tout vécu, j'ai tout plié. Survivre, je sais le faire, immuniser. Contre la haine, et les tétrés qui m'ont brisé. J'ai aussi pris des tartes d'humanité. Des mains tendues dans le désert, je suis abîmé. Rendez-moi mon innocence et mes rêves. Ramenez-moi ma mif avant que j'en crève. J'ai froid, je veux plus tout ça. Dites à la juge que la petite Letty rentrera pas. Je suis pas née dans la soie, maman, j'espère y arriver. À te sortir de là, t'es la seule à tout mériter. Mais pour l'instant, je me tape à faire des sous sur le hanté. Ils veulent me voir en cage, mais ils pourront pas.
La route est longue, oui, comme je disais en début d'émission, quand je plantais le décor de l'émission, comme on dit en termes radiophoniques, oui, annoncé d'ailleurs la présence aujourd'hui, pas en studio, au téléphone, non, on est encore en pandémie, Louise Thibault qui va nous parler aujourd'hui de ce que nous lèguent nos parents côté génétique et alimentaire, de recettes et de femmes parfaites.
Ah oui.
Voilà. J'espère qu'ils vont nous parler aussi un jour des hommes parfaits. S'il y en a.
Ça, on cherche encore, mais j'ai trouvé des recettes.
Bonjour Louise Thibault, et bonne année à toi.
Merci, bonne année à toi aussi.
C'est ta première de l'année 2022.
Absolument, absolument.
Alors, tu as eu un bon réveil, un bon Noël?
Oui, c'était très bien. C'était une petite bulle, et puis toutes sortes de bulles, finalement. Ça s'est bien passé.
Génial.
Et j'aimerais te remercier, Fulgence, de toujours m'écouter. Hein, tous les lundis, les chroniques de nutrition et d'autres choses. Et puis, vous tous, ceux qui nous écoutent, je vous souhaite une très belle année. Et puis, cette année, j'espère que vous allez vivre en harmonie avec votre corps et, grâce à ces chroniques nutrition, avoir en harmonie avec votre garde-manger.
Oui.
Et oui, parce qu'on parle de nutrition.
On parle de nutrition.
Ben, ça vient
merci
nous,
beaucoup,
ben, ça vient
Louise. Merci
goût,
beaucoup.
Notre garde-manger,
voilà. Hein,
qui décidons quand même.
Merci beaucoup. Merci
oui.
beaucoup de cette belle collaboration, d'ailleurs.
Ah oui, oui. Voilà. Déjà, plus d'un an.
Ah, plus d'un an. Merci de nous le rappeler.
Oui,
tout plus d'un an. Allez, on y va.
Alors, je vous parle de nutrition aujourd'hui, évidemment. Mais aussi, pour 2022, je vais vous parler d'un nouveau créneau, qui est la littérature alimentaire.
Oui, oui. Chose qu'on en parle très peu, d'ailleurs.
On en parle peu, mais cette littérature, elle est très abondante. Et je ne parle pas des livres de recettes, je parle de tous les livres qui parlent de l'alimentation.
L'alimentation, parce que c'est différent des livres de recettes.
Les éditeurs québécois se sont montrés très, très généreux à mon égard en m'envoyant des copies de presse, de livres parus.
Bravo.
Notamment moins récemment, et je voudrais profiter de l'occasion pour les en remercier.
Oui.
Et sachez aussi que je porte une très grande attention à chacun des livres que je reçois.
Oui.
Étant moi-même.
Ah ouais, s'ils te font confiance qu'ils t'envoient le livre, il faut que tu en parles.
Ben oui, et puis il faut que je lise aussi.
Il faut que. Ça, c'est le premier pas, ça. La première,
ah ben oui, puis je suis autrice de livres de nutrition, comme vous le savez. J'ai aussi écrit des articles scientifiques, donc je sais que le temps qu'on met à faire les recherches et à écrire le livre, eh bien, ça se compte souvent en années.
Ah oui, 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 ça c'est clair. Ça, c'est clair.
Donc,
alors, je te laisse
je vais
partir. Je te coupe plus, hein. Lui, je te coupe plus.
Et pour cette première chronique de l'année, je vais vous parler aussi de l'héritage, hein, de l'héritage que nos parents nous ont légué, côté génétique et côté alimentaire. Et côté alimentaire, eh bien, vous avez peut-être hérité, certains d'entre vous, de recettes de votre mère ou peut-être de recettes de votre grand-mère. N'est-ce pas?
Moi, personnellement, j'étais pas trop bon, on nous faisait sortir de la cuisine. Sortez, c'est pas le coin des hommes. On disait ça à la maison souvent. Oui, sortez, sortez d'ici.
C'est dommage.
C'est nos sœurs qui avaient droit. Bon.
Alors,
elles étaient privilégiées.
J'espère que c'est pas le cas pour tout le monde.
Non, je pense pas.
Mais, moi, personnellement, j'ai hérité d'un très vieux livre de recettes de ma maman.
Oui.
Et qui est à noter qu'il y a des pages qui sont vraiment un peu collées les unes aux autres. C'est peu dire que le livre de recettes a été beaucoup utilisé.
Oui.
Et j'ai repéré un roman alimentaire tout à fait unique qui parle justement de ça, hein, de ce type d'héritage qu'on a, des recettes, des livres de recettes de nos mamans. Et c'est un livre qui est vraiment singulier. C'est un livre qu'une Torontoise, Karma Brown, a écrit et qui a pour titre la recette de la femme parfaite. Intéressant, non?
Je ne savais pas que ça existait.
Alors, c'est un roman. Roman qui raconte l'histoire de deux femmes. Une première qui s'appelle Nelly, une femme au foyer des années 50. Et la seconde, elle s'appelle Alice, elle vit à notre époque. Alice, elle vient de quitter une carrière qu'elle adorait à New York pour suivre son mari et vivre dans une grande maison de banlieue où elle rêve de devenir écrivaine et peut-être d'avoir un enfant. Et dans le sous-sol de cette grande maison, Alice trouve un vieux livre de recettes et des magazines féminins des années 1950. Or, ce livre de recettes et les magazines féminins avait appartenu à l'ancienne propriétaire de la maison, à savoir Nelly, qui a vécu là dans les années 50.
Okay.
Alice, elle trouve aussi des lettres cachées dans le magazine qui racontent le quotidien de Nelly et celui de ses amies femmes au foyer des années 50.
Et comment on peut oublier un trésor comme ça, en déménageant?
Ah oui, on peut trouver. Enfin, c'est ce qui est arrivé à Alice.
Mm-hmm.
Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'au fil des chapitres, la vie de Nelly Et celle d'Alice aussi se déroule à partir d'événements qui mettent en vedette des recettes.
Oui.
Alors, on a toutes sortes de recettes, certaines que j'ai essayées ou en faisant une petite pause de lecture. Alors, il y a, par exemple, un pain de viande au flocon d'avoine, des muffins au citron et à la lavande. Alors, c'est un concept qui est très intéressant parce que entre deux chapitres, eh bien, on peut être tenté de cuisiner quelque chose et reprendre le fil de sa lecture tout en s'imbibant, tout en vivant un peu l'atmosphère des recettes. Mais la singularité de ces recettes-là, c'est qu'elles viennent de livres qui s'intitulent, par exemple, Purity Cookbook, qui a été édité en 1945. Il y a d'autres livres aussi, une édition 1913, vous m'avez bien entendu, qui s'appelle The Five Rose Cookbook. Five Rose, c'est une marque de farine. Donc, au début de chaque chapitre, bien, vous trouvez des citations, des recettes, mais aussi des citations qui sont tirées de ces livres et qui donnent des conseils de bienséance pour la femme au foyer des années 50. Autrement dit, des recettes de femmes parfaites. Et ces conseils-là, je vous le dis, ils vont vous donner la chair de poule.
Ouais,
donc,
ouais,
nos protagonistes, Nelly et Alice, ben, elles vivent à des époques bien différentes.
Ouais.
Mais la vie des femmes et la vie de couple a-t-elle vraiment évolué depuis les années 50? En fait, je vous laisse en juger quand vous lirez la recette de la femme parfaite. Et cette autrice-là, Karma Brown, elle n'est pas la seule à avoir intégré des recettes dans un roman, parce que d'autres l'ont fait avant elle. Il y a une autrice qui s'appelle Diane Mott Davidson, qui a écrit un roman, un très bon roman, qui s'appelle Dying for Chocolate, Mourir pour le chocolat, qui est une histoire de meurtre et mystère. Et c'est un beau petit livre qui a été publié chez Bantam en 2002, qui raconte l'histoire, mais tout en pimentant tout ça avec des recettes.
Le titre même, déjà, ça me fait passer très loin, ça me fait m'écarter des tablettes de chocolat.
Parce que... Oui, chocolat qui est au cœur de ton histoire.
Je suis un accro, donc j'en achète plus non plus, plus pas du tout. Je passe très loin quand je vois les tablettes de chocolat. Je change de contour, quoi. Je change de chemin.
Tu meurs d'envie de manger du chocolat.
Oh, ouais, quand j'en ai là, il faut que je mange. Il faut que je les finisse. Voilà.
C'est vraiment une addiction.
C'est une addiction. Je suis un accro, donc je.
Bon, ben, vous qui nous écoutez, vous avez peut-être la même addiction que Fulgence. Ne pas en acheter.
Louis, tout ce qui amuse Gull, je suis accro. Les arachides, les cacahuètes, je les achète plus. Hein. C'est-à-dire que ma main la vend dans le petit bol et puis bon, mes doigts, là, c'est le petit bol, la bouche. Tant que c'est pas fini, c'est comme ça le voyage des doigts.
Mais je suis certaine qu'en lisant la recette de la femme parfaite, tu pourras découvrir des recettes qui ne contiennent ni chocolat, ni arachides.
C'est possible, oui.
Fort simples et qui sont vraiment inspirantes.
Ouais.
Et moi, je trouve que l'idée de mettre quelques petites recettes ici et là, et aussi de mettre en scène des recettes dans les différents événements,
oui,
passe dans le livre, c'est tout à fait charmant. C'est vraiment délicieux. Alors, je vous invite donc à déguster un livre, La recette de la femme parfaite, qui est un roman qui contient quelques recettes, mais aussi beaucoup de secrets et de réflexions.
Je peux m'imaginer, surtout un livre écrit à cette époque.
Oui, de femmes qui ne sont pas aussi parfaites qu'on pourrait le croire. Et le dénouement du livre, il est vraiment étonnant.
Ouais. De toutes les façons, je me dis souvent, bon, l'homme ou la femme qui se dit parfait ou parfaite sur cette terre me fait peur.
Ah oui, et vous allez voir les rôles que les hommes jouent dans ce roman. Alors ça, c'est quand même assez singulier.
On le trouve encore en librairie, ce livre, hein, Louis?
On le trouve sûrement en librairie parce qu'il est paru en septembre 2021.
Oui.
Aux éditions de l'Homme.
Oui.
Qui, depuis quelques années, a commencé justement à publier des romans.
Oui.
Donc, c'est quand même une chose intéressante que d'acheter des romans aux éditions de l'Homme.
Oui.
Et la page couverture, elle est vraiment frappante. Alors, c'est en rouge et il y a une illustration justement d'une femme des années 50 avec la recette de la femme parfaite qui est enfin qui est scotchée à des endroits bien particuliers.
Oui, oui. Et c'est la même maison d'édition qui t'a édité pour tes différents livres.
Ben oui, qui m'a édité. Je devrais peut-être m'y mettre moi aussi à écrire un roman.
Ouais, je te verrais bien là, j'ai envie de te lire. Voilà. Je te verrais bien avec un ou deux romans là au moins.
Pourquoi pas avec quelques petites recettes ici et là.
Oui.
Et pour parler de nutrition.
Oui.
Alors, est-ce que je continue de parler de legs alimentaires ou si on garde ça pour une prochaine chronique?
On garde ça pour une prochaine chronique. Pour terminer, la conclusion?
Ben, la conclusion, c'est que ben moi je vous ben, je crois que parmi vos résolutions alimentaires, ben, vous devriez inclure la lecture. Et au fil de chaque chronique, eh bien, je vais m'efforcer de vous parler d'un livre qui m'a interpellée, de livres que j'ai lus, parfois en lecture rapide, parfois en lecture plus attentive, qui va vous inspirer, qui va peut-être vous aider à mieux vous nourrir.
Oui, et comme dirait l'autre, la lecture, c'est la gymnastique de l'âme et de l'esprit, du cerveau surtout.
Oui, la lecture fait voyager. Et puis c'est ça. Permettra de manger intelligemment, je vous le souhaite.
Voilà. Merci beaucoup, Louise.
T'en prie.
Je suis content que tu sois revenue pour ta première. Et puis, bon, ben, on se reparle lundi prochain.
Certainement.
Allez, bonne semaine à toi.
Merci, bonne semaine à toi aussi. Bye-bye. Au revoir.
Au revoir. Il y avait la complicité de Sifombé, les Zandela, Zandela, Zandela. Voilà, avant de passer à la prochaine pièce musicale, je vais parler un peu de... un petit clin d'œil, un peu de compassion quand même, aux 19 morts dans un incendie à New York hier. Oui, il y avait un incendie dans un immeuble, sincèrement, les flammes ont vite été maîtrisées. Mais la fumée, non, épaisse d'ailleurs, a intoxiqué des dizaines d'habitants dans l'immeuble. Hein, ouais. C'était dans le Bronx. Au moins 19 personnes sont mortes hier dimanche. Ouais, une soixantaine ont été blessées dans l'incendie de cet immeuble Bronx. Ah, c'était pas évident. Ouais, plus de 200 pompiers qui ont tenté d'évacuer autant d'habitants d'ailleurs, aussi vite que possible. Mais bon, 120 appartements dans cet immeuble, c'est beaucoup quand même, il faut le dire. Et puis, selon le chef des pompiers de New York, tout est parti d'un appartement au deuxième étage en fin de matinée. L'incendie a été déclenché par un chauffage électrique défaillant. C'est ça. En hiver, il faut être très, 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 très prudent. D'ailleurs, il faut souvent dire ça aussi aux propriétaires d'immeubles, de revoir leurs appareils là avant que l'hiver ne commence, parce que là, et quand ça arrive, c'est ça laisse des dégâts, dont le feu a ravagé par appartement qui s'étend sur deux étages et une partie du couloir, d'ailleurs. Donc, les gens, 19 morts, plus de 200 pompiers qui sont arrivés là pour essayer de sauver ces personnes-là. Ouais. C'est quand même le bilan. Oui, 30 dernières. C'est le bilan, le lourd bilan de cet incendie fait le plus grave des 30 dernières années à New York. Bon, ça va être l'un des pires incendies de notre histoire, comme l'était d'ailleurs à la télévision Eric Adams. C'est triste. J'ai vu les images. C'est une manière, pas notre modeste manière à nous, ici à Escale 17-18, de penser aux familles, à ceux qui sont partis, à ces personnes qui sont parties ou bien qui ont été blessées. Voilà, allez, que la terre le soit légère, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Avant de passer à la prochaine pièce musicale, la Coupe d'Afrique des Nations a commencé 2020. Il y a eu deux matchs hier, d'ailleurs. Le premier match, c'était le Cameroun, pays organisateur, qui a affronté le Burkina Faso. 2-1. Voilà, pour le Cameroun. Voilà, des pénalties un peu ci, par-ci, par-là. Bon, ben, j'ai vu le résultat du match. C'était pas extra, c'était le match d'ouverture. Et en deuxième match, il y a le Cap-Vert, qui a battu l'Éthiopie 1-0. Je m'attendais même pas à ça. Le Cap-Vert. Et aujourd'hui, il y a le Sénégal qui a battu aussi sur pénalty d'ailleurs le Zimbabwe 1-0 en soirée. Bon, 17h chez eux, je ne sais pas quelle heure chez nous ici. Bon, j'ai pas pu voir les résultats avant de venir. Je vous en parlerai demain. 17h, Guinée contre Malawi. 17h, Maroc contre Ghana. Et puis bon, à 20h, le Comore contre le Gabon. Ça va aller comme ça jusqu'au 6 février. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une fois par année. C'est les nations qui se rencontrent. Ce ne sont pas des équipes privés, ce ne sont pas les équipes de championnat, mais c'est les pays qui se rencontrent. Alors, un peu plus tard, en deuxième partie d'émission, je vais parler un peu du Canada qui rencontre la première coupe ATP de son histoire au tennis. Oui, je ne sais pas si Nicolas a vu des images de ses deux petits amis, nos deux jeunes joueurs de tennis, Félix Auger-Aliassime et son ami Denis Shapovalov. Non, ils étaient très contents. Hein. Alors, tout de suite, on part en musique. Une toute nouvelle de Stromae, L'Enfer. L'Enfer, ouais, ça fait partie de son nouvel album qui va sortir bientôt. On avait déjà écouté Santé il y a quelques mois, oui, bien avant les fêtes. Maintenant, il sort comme ça, puis à vous, quelques pièces de l'album L'Enfer, c'est parti, Stromae.
Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé.
dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
L'enfer, c'est de son nouvel album. Alors pour ceux qui sont dans des situations comme ça, ça dit ceux qui ont des idées comme ça, n'hésitez pas. Il y a des organismes chargés de vous aider. Voilà, n'hésitez pas, ne restez pas dans le petit coin. Adressez-vous aux frères, aux amis, aux la famille. Contactez les organismes pour vous aider, s'il vous plaît. N'ayez pas enlevé ces idées noires de vos têtes. À tout de suite après la petite pause publicitaire.
Et Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Tal vez aquí conmigo, conmigo. Estoy agradecido de que duermas a mi lado. Aún más te amo. Tal vez sé que no soy el de sus sueños, el chico adorado. Tal vez
Estudiante, amor y amor. Voilà, on n'a pas bien traduit ça quand même là, ça, c'est simple. C'est... Alors, je vais parler un peu, je n'en avais pas parlé la semaine passée, il faut que je revienne là-dessus, le décès de Sidney Poitier, le premier grand comédien afro-américain qui nous a quitté à l'âge de 94 ans d'ailleurs, la semaine passée. Oui, c'est quelqu'un. Il est né à Miami, en Floride, de parents du Bahamas d'ailleurs. Donc c'est un Bahamien américain, si, voilà, on peut dire. Et je me rappelle bien moi le premier noir que j'ai vu comme ça dans un film qui jouait un rôle important, qui était dans un rôle principal, c'était lui. C'était lui. Voilà. Tous les autres que je voyais, c'était soit des cuisiniers, les rôles qu'on réservait aux Afro-Américains à l'époque. Mais lui, c'était les vrais rôles qu'il avait, quoi. Ensuite, des rôles principaux, quoi. Dans La Chaleur de la Nuit, Devine qui vient dîner. Il avait reçu l'Oscar d'honneur en 2002. Il a notamment été le premier homme noir à recevoir l'Oscar du meilleur acteur en 64. Oui. Alors, Sidney Poitier, pour ceux qui regardaient à l'époque des films, la télévision, il était partout, quoi. Voilà. Et moi, ce qui m'avait choqué, je me rappelle bien, que la terre lui soit légère, hein, je pense un peu que ma compassion, mes condoléances et mes sympathies à sa famille, à ses proches, à ses amis. J'avais vu un documentaire sur lui il y a quelques années, un documentaire d'une heure où il était... On lui tendait le micro tout le temps, il a dit. Les gens me voyaient dans les films, à la télé, tout ça, et... Il pensait que j'avais une vie en or. Non, non, non. J'avais pas le droit, parce que c'était en pleine ségrégation aux États-Unis à cette époque, j'avais pas le droit d'aller prendre un verre avec mes collègues acteurs. Oui. Après le tournage, j'étais seul, isolé. On me permettait pas d'aller prendre un verre avec eux. Même si on rigolait ensemble sur le plateau de tournage, mais après le tournage, non, j'étais le noir. Voilà. J'étais le noir. Il n'était pas question d'aller manger avec moi, d'aller prendre un verre avec moi. Quand j'étais seul. Voilà. J'ai eu... Ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, waouh, celui qu'on voyait à la télé, on te dit, ah, lui, au moins, il a de très bons rôles. Il n'est pas, on lui donne pas les petits rôles de cuisinier, de gardien, de chauffeur, ou bien je ne sais quoi, de prisonnier, ou bien quoi. C'est la vie qu'il a vécue durant tout le temps. Ouais. Et ce documentaire a été fait, d'ailleurs, après avoir... pris sa retraite, hein. C'est pas lui qui l'a fait, c'est quelqu'un qui l'a contacté pour qu'il raconte sa vie. Ça m'a beaucoup touché. Il dit waouh. Il a dit oh non, ma vie n'était pas tout en rose, hein. Parce que j'avais de très bons rôles par rapport aux autres, que ma vie était en rose. Non, non, non. J'étais isolé du milieu. Oui, c'est sa vie qui l'a menée. Mais il n'a pas baissé les bras. Quand il se retrouvait sur le plateau, il faisait comme si de rien n'était. Mais après, il fallait qu'il rentre chez lui, quoi, tout seul, isolé. Pas d'amis dans le milieu, en fait. Des amis de plateau, mais pas des amis en dehors du plateau. Ça m'a beaucoup touché. Alors il vient de nous quitter. Avant lui, Hollywood cantonnait les acteurs noirs au rôle de majordome ou d'idiot du village, comme je disais, les petits rôles là, voilà. Sidney avait brisé ses stéréotypes en incarnant dans les années 50-70 des personnalités exemplaires, participant ainsi à la lente mutation des mentalités. Faut pas l'oublier non plus, on était en pleine ségrégation. Hein. Voilà. C'était un acteur de légende, premier acteur afro-américain à avoir cédé à des rôles principaux. Oui, c'est. Il dit, j'accepte cette récompense au nom de tous les acteurs et actrices afro-américains qui m'ont précédé. Ça, c'était en 2002, quand il a eu son Oscar. Voilà, c'est... Et puis, sa naissance même, d'ailleurs. Il est né prématuré. C'est un garçon. Ça n'a pas été facile pour lui aussi. Hein. Né prématuré à Miami, en Floride, le 20 février 1927. À l'occasion des déplacements de ses parents venus du Bahamas voisin. Les Bahamas, c'est des Bahamiens. Il obtient la double citoyenneté, d'ailleurs. Nationalité américaine et bahamienne. Voilà. Donc, pour échapper aux lois racistes de Floride, Sidney, pas très jeune pour New York, son fort accent caribéen qui veut lui vaut d'être refusé par l'American Negro Theater. Travaille à s'en débarrasser. C'était pas facile. Oui, c'est un clin d'œil, une manière à moi de dire, ok, que la tête soit légère, mes condoléances et mes pensées à ses proches, Sidney Poitier. Voilà, je vais parler un peu de l'avenir de la, si j'ai encore un petit moment après, avant la petite pièce, mais avant la prochaine pièce, oui, l'avenir de la santé de plus en plus de spécialités de la médecine sont révolutionnées par la technologie. Un très bon article dans la presse d'ailleurs, qui du 9 janvier d'hier, qui parle de la canne intelligente, la canne pour les non-voyants. Si les personnes aveugles pourraient marcher 18 fois plus rapidement avec moins de petites collisions avec les poteaux, les arbres, grâce à cette canne munie de capteurs d'obstacles. C'est-à-dire que si la canne pointe un arbre tout de suite, ça dévie, quoi. C'est-à-dire que le marcheur, celui qui a la canne, tout de suite sait qu'il y a un obstacle. Ça a été inventé par des ingénieurs de l'université Stanford. Elle avertit son propriétaire par l'entreprise d'une poignée haptique envoyant de la rétroaction et d'une roue située à sa base qui dévie la trajectoire ou freine si nécessaire pour dire « Ah tiens, il y a un danger, il y a un obstacle ». Voilà. Et puis il y a l'insuline sans piqûre. Des ingénieurs italiens ont mis au point une pompe à insuline sans piqûre. Tant mieux. Alors installée dans le corps du client, elle est alimentée en insuline par des pilules intelligentes guidées par magnétisme. Les pilules intelligentes sont ensuite excrétées et réutilisées. Voilà, selon Science Robotics, l'été dernier d'ailleurs, les chercheurs de l'école supérieure Sainte Anna de Pisée ont décrit ces tests de validation auprès des cochons diabétiques. Tant mieux, hein. Et puis, il y a la cheville robot aussi qui vient. Ça va vite, hein, ouais. Ils appellent ça exosquelette installé autour des chevilles, optimisé en fonction des mouvements du muscle solaire, qui permet de réduire de 8% à 15% la consommation d'énergie. Selon ces ingénieurs de l'université Harvard, cette optimisation personnalisée permet d'avoir besoin de moins de batteries pour l'exosquelette. Voilà. Donc, ces chercheurs de Boston ont décrit en novembre dernier aussi. Comment ils ont testé leur invention à trois vitesses sur du terrain plat et puis ainsi que sur une côte, quoi, pour voir la différence comment. Donc le gain d'énergie maximale était sur le plat à basse vitesse. Et puis il y a le cousin du genou aussi, une nouvelle option peu coûteuse serait bientôt offerte pour pallier les difficultés de locomotion des personnes âgées. Oui. Celle-là, je vais revenir là-dessus parce que c'est des choses qui sont tellement intéressantes. Alors, je vais revenir là-dessus. Et puis, il y a la police de la COVID, un robot qui pourrait prévenir les gens qui ne respectent pas les distances prescrites. Ça aussi, je vais revenir là-dessus. On va en musique. Ouais.
De 76, coin 7e et 7e. Sur un pâté de maisons qui sont presque les mêmes. Mon père père est une police, ma mère une cantatrice. Mon frère fume en cachette, je dis rien, j'irai en service. Et tout est beau dans l'Amérique française de l'an 1976. Pendant qu'assaut et tôt, partout c'est les émeutes. Paillard aux yeux patio, moi j'use mes crayons feutres. Réunis le Vietnam, pense à se relever. Le monde entier peut voir notre stade inachevé. Et tout est beau dans l'Amérique française de l'an 1976. En Chine, un grand séisme fait plus de 200 000 morts. Mao passe l'arme à gauche, ça on en parle encore. Nadia Comaneci fracasse tous les records. Pendant que les petits cimors vendent du leur à ce corps. Et tout est beau dans l'Amérique française de l'an 1976. Trudeau très bourrasso de mangeur de hot dog. Ça finit pas comme ça, ça c'est juste prologue. L'évêque pointe vers le nord en disant liberté. Dalila chante encore sa chanson, j'attendrai, j'attendrai. Et tout est beau dans l'Amérique française de l'an 1976. J'habite le 76, coin 7e et 7e. Sur un pâté de maisons qui sont presque les mêmes. Je sais que je suis pas loin d'être grand, j'ai juste d'avoir 10 ans. Et le monde tout autour change plus vite chaque jour. Chaque jour. Et tout est beau dans l'Amérique française de l'an 1976.
De la Rochelière, de la Rochelière, du 976. Waouh! Voilà, je continue avec l'avancée de la science, bien sûr. Hein. Je reviens là-dessus, là, je vais revenir là-dessus. Ça veut dire qu'après la pièce musicale, je continue. Alors, le cousin Juno dont je parlais, la nouvelle option moins coûteuse qui coûte 7 000 $ américains. Oui. Et le genou exosquelette à 100 permet de réduire la mobilité de moitié la douleur et d'améliorer de 67% la capacité de se déplacer de patients à mobilité réduite, selon cette étude de Room Robotics. Aux États-Unis, la 100 devrait coûter 7 000 $ US, beaucoup moins que les exosquelettes d'ailleurs, couvrant toute la portion inférieure du corps. qui peuvent friser les 100 000. Donc, ce que j'avais dit, la cheville robot, beaucoup plus cher que le cousin genou, là, l'autre invention. Et puis, la police de la COVID, c'est quoi? C'est le robot qui peut prévenir les gens ici qui ne respectent pas des distances prescrites avant, avec autrui en cas de pandémie, par exemple. On est en plein là-dedans. Ces ingénieurs de l'université de Maryland. Ce robot peut même analyser les données des caméras de surveillance publique. Ah oui. Alors là, pour détecter les infractions à la distanciation physique et aller prévenir les contrevenants. Waouh. Les chercheurs américains d'ailleurs, ces chercheurs là de l'université de Maryland, qui ont décrit leur algorithme début décembre dans la revue Plus One. D'ailleurs, ils veulent maintenant optimiser les messages aux contrevenants pour ne pas créer de conflit. On espère que ça va donner quelque chose. Et pour terminer, concernant l'avancée de l'avenir de la santé, il y a le Shanghai électrocardiogramme. Oui, les ingénieurs de l'université Rice à Houston ont mis au point un chandail tissé de fibres nanotubes qui enregistre le rythme cardiaque mieux qu'un moniteur attaché à la poitrine, couramment utilisé pour les tests à la maison. Dans les nanoletters, en septembre, ces chercheurs texans ont expliqué que la performance des nanotubes ne diminue pas avec les lavages et qu'ils peuvent être connectés à un appareil Bluetooth. Et alors, donc pour un suivi continu du rythme cardiaque, voilà, il peut peut-être connecter un appareil Bluetooth. Waouh! Même le lavage, ça ne fait rien. La santé, la science avance quand même, hein, il faut le dire, hein, la médecine. Ouais, sincèrement, bravo à ces gens. Bon, je tenais à en parler, quoi. Il fallait que j'en parle. Voilà, maintenant, on va parler un peu de... On va pas parler de froid là, devant moi, le froid, les moins 30, les moins 45 qui arrivent demain là, ça me fait déjà peur, hein, ouais, sincèrement. Je peux parler un peu des jeunes Canadiens en Australie qui viennent de gagner, là, l'équipe Canada, là, Félix Auger-Aliassime et son ami, et toute l'équipe, quoi. Voilà, c'est pas Chapovalov, Denis, oui, voilà. C'est la première coupe ATP de son histoire. Tennis Canada. Ah, il faut le faire. Hein. Félix Auger-Aliassime a permis au Canada de remporter. Je sais pas. Lui et ses amis et toute l'équipe. Il est le capitaine de l'équipe. C'est pourquoi il a permis. Voilà. C'est pas lui seul qui a permis. Il a pas joué. Il a gagné son match. Mais s'il perdait son match, le Canada ne passait pas. Ça, c'est clair. Il est parti de loin. Il était mené 2-0. 2-7. Il fallait qu'il remonte la pente pour arriver là. C'est pourquoi les gens, beaucoup de gens disent, il a permis. Oui, d'accord, il a permis. Ouais. Parce que s'il ne gagnait pas son match, la victoire n'était pas assurée pour l'équipe Canada. Voilà. 7-6, 6-3. Oui, contre l'Espagnol Roberto Bautista. Bautista que j'apprécie beaucoup aussi. Hein. C'était hier soir à Sydney. J'ai vu les vidéos, le résumé du match. Il ne fallait pas les voir. Hein, les deux, Denis et Félix, en train de sauter. C'est des gens qui se connaissent depuis leur jeune âge. 7 ans, 8 ans. Ils ont commencé à jouer au tennis ensemble. Oh, ouais, donc c'est... Et si je ne me trompe pas, Félix, il doit être maintenant au 9e rang mondial. Voilà. C'est à vérifier. Tu peux regarder, Nicolas. Et donc, lors de ce duel... La victoire de Félix, d'ailleurs, lors du deuxième match, simple de la soirée, procurait alors au Canada cette insurmontable avance de 2-0, 2-7. Mais c'est pas possible. Je me suis dit, non, c'est fini pour lui. Bon, quand j'ai vu comment il a repris confiance et puis il tapait dans la petite balle ronde, là, je me suis dit, waouh, bon, c'est parti, ça. Donc samedi en demi-finale, bon, lors du duel initial, bien simple aussi, Denis Chapovalov avait défait Pablo Carreño Busta 6-4, 6-3. C'est des jeunes, depuis quelques années, quand moi je les regardais, pas tout le temps, mais les matchs que je voyais de ces deux garçons, je me suis dit, ces garçons-là, ils ont de l'avenir. Ils vont essayer un avenir. Ouais. confirmation de Nicolas, 9e rang. Félix Auger et Yacine. Merci. Et puis, je me suis dit, ces garçons, ils ont de l'avenir. Ils ont de l'avenir, voilà. Ça se prouve maintenant. C'est la maturité même, quoi. Voilà. C'est la maturité totale. Tu les vois, ils sont. Il y a une certaine maturité, il y a une certaine assurance, il y a une certaine confiance qu'il y a. Et puis, il y a le mental même qui a été formé au cours de ces années-là. A dit que même s'ils sont menés, ils se disent pas, oh, c'est fini pour moi. Et puis, bon, ben, ça joue légèrement. Non. Ils vont se mettre eux-mêmes le pied dans le derrière pour aller de l'avant avec ça. Voilà, ils se disent non, il faut que ça parte. Et puis avec l'encouragement du coach qui est là, ou bien des membres de la famille, ou bien des amis qui sont là dans les stands sur la cour, bon, tu te dis waouh. Je lui ai dit bravo de permettre au Canada de remporter sa première coupe ATP de son histoire. Voilà, ça c'est quelque chose. Hein. Ouais. Je me suis dit, bon, il faut que j'en parle quand même, parce que là, vraiment, si on n'en parle pas, bon, il ne faut pas les oublier, hein, c'est pas fini. Ça ne fait que. Ouais. Nicolas me fait signe que je n'ai plus de temps, il faut que j'arrête. On leur dit bravo, et puis bon, ben, bon vent pour le reste, parce que c'est pas fini le tournoi, hein, ça continue là, jusqu'au. Je sais quand là-bas. Là. Bon, tu sais, aujourd'hui, je n'ai pas voulu parler de. Djokovic, on revient là-dessus demain. Allez, Nicolas, on va en musique, merci.
Good girl, so voilà. I'm not too sick of mocho. Casa pote gimoto Bilo yaga ke baba Uki na lomo wanu wa untusa Yenku ubela Nkieze la gadala Gere bilo yaga ke baba When I pray God Please hear me when I cry. God, please hear me when I pray. God, please hear me. And when I cry, God, please hear me. Matata agazi bagwena Sobolo yaga isi bagwena Jega muga hari isi bagwena Bilo yaga ya baba Matata agazi bagwena Sobolo yaga isi bagwena Jega muga hari isi bagwena Matata agazi bagwena Jaga muga arizi bagwena Sabala yaga izi bagwena Bilo yaga ya baba Ndila kezi ndimbiri Iyo taulera yao Ndila kezi ndimbiri Munga
Ya fera di chamba munga di chamba munga na mukayo wa fera chusege moto Nka sapotege moto Bilo yaga kebaba.
Oh ouais, on a fini comme ça l'émission, c'est la dernière pièce musicale. Merci Nicolas. Prince Benz avec la complicité de Makadzi. Le titre de la pièce est Matata Hack. Voilà, merci à Luis Thibault qui est venu nous parler de nutrition aujourd'hui, la première chronique de nutrition. Merci à toi Nicolas, merci à vous aussi chers auditeurs de votre fidélité. Je vous dis ciao et à demain à la même heure sur les ondes de Canal M.